Nous sommes de retour à l'émission Au gré du temps. Juste avant la pause, on entendait José Cura, qui est ténor et chef d'orchestre argentin, qui est né en 1962, donc relativement jeune, qui a fait ses débuts en 1994 après avoir remporté le concours Opéralia de Placido Domingo. En 1997, il a fait ses débuts à la Scala de Milan dans la Gioconda de Ponchielli et au Staatsoper de Vienne dans Tosca, dont on a entendu d'ailleurs un extrait de l'acte 3 de cet opéra de Puccini, qui nous était proposé par Patrick Olafsson, qui est avec nous. Merci beaucoup pour cet extrait d'opéra qu'on a entendu précédemment. C'est tellement plaisir. Beau.
Oui, j'adore l'opéra. Moi.
Vous adorez l'opéra, comme vous adorez aussi Michel Legrand.
Ah, ben ça, c'est sûr.
Je dois dire, parce qu'on va entendre d'autres pièces extraites de cet album consacré à Michel Legrand, ce qui est assez formidable dans votre album, c'est un album voix-piano.
Oui.
Et on entend fort bien le piano, on entend fort bien la voix, la prise de son est extraordinaire. On a l'impression d'être un peu à côté de vous, comme si vous nous chantiez quelque chose à l'oreille.
Oui, ben, c'était vraiment l'intention qu'on avait quand on a enregistré cet album-là avec Marc-André Cuirier, qui est le pianiste qui m'accompagne sur l'album. On voulait vraiment que ce soit pas seulement un album de Patrick Olafsson qui chante, mais que le piano soit aussi présent que la voix et qu'il n'y en ait pas un qui soit plus fort que l'autre. Et on avait vraiment envie de créer quelque chose de proche et d'intime, même s'il y a des chansons qui sont plus grandioses un peu sur l'album. Mais c'est quelque chose que j'avais envie d'explorer parce qu'habituellement, on me demande beaucoup, comme je suis un ténor puis j'ai une voix très puissante, on me demande souvent pour chanter des grosses tunes puis des grosses notes puis de chanter très, très fort. Puis on a travaillé très fort sur cet album-là, justement, pour ramener tout ça pour que...
Et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on sent dans cet album la puissance de votre voix et en même temps toute la douceur. Je disais tantôt, c'est comme si vous nous chantiez quelque chose à l'oreille. Cette puissance n'est pas exacerbée. Elle est présente, mais elle se fait en douceur. C'est paradoxal, mais c'est pourtant ce qu'on perçoit comme auditeur.
Ben merci. C'est un beau compliment.
Comment vous la qualifieriez, la prochaine chanson que vous allez nous interpréter? Parce que vous disiez qu'il y a de grandes chansons de Legrand. Il y en a qui... Celle-ci, qui est la valse des Lila.
Ben, c'est tellement beau, cette chanson-là. Le texte aussi, ce que ça raconte, hein, ça nous dit de ne pas rester accroché sur les vieilles, les vieilles pensées, les vieilles histoires, d'apprendre à tourner la page et à passer à autre chose. Puis que même si on est triste, puis tout ça, quand même, au mois de mai, les lilas vont fleurir, puis les lilas de mai vont fleurir. Donc, c'est une belle chanson.
On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais, d'un souvenir qui n'est plus qu'un regret, sans un ami et sans autre secret qu'un peu de larmes. Pour ces quelques pages de mélancolie, tu as fermé le livre de ta vie et tu as cru que tout était fini. Mais tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment tant que tournera le temps jusqu'au dernier printemps. Le ciel aura 20 ans. Les amoureux en auront tout autant. Bye. le ciel aura 20 ans. Les amoureux en auront tout autant. Si tu vois les jours se perdre au fond des nuits, les souvenirs abandonner ta vie, c'est qu'ils ne peuvent rien contre l'oubli. L'oubli.
La valse des lilas de Michel Legrand, interprétée par Patrick Olafsson. Patrick, c'est curieux parce que quand on regarde votre parcours, vous en avez parlé un peu en première partie d'émission, vous aviez l'intention un jour de devenir acteur. Pourtant, lorsque vous étiez très jeune, vous vous considériez comme un enfant timide. Et vous voilà maintenant dans une carrière qui est très publique, où la formation théâtrale vous sert fort bien. Est-ce que cette timidité a pu jouer dans le développement de ce que vous êtes devenu?
Ben oui, c'est sûr. En fait, j'ai hésité longtemps avant même de choisir de devenir un acteur parce que je me disais, ben je peux pas être un acteur, je suis trop gêné. Mais j'ai toujours eu en moi, malgré cette gêne-là et ce manque de confiance en moi-là, j'ai toujours eu un instinct de survie qui m'amenait à me donner des défis. Donc, ça a été un des défis que je me suis donné, c'est de me dire, ben je vais essayer d'être un acteur parce que si j'essaye pas, je ne le saurai jamais si je peux réussir, puis je vais avoir des regrets quand je vais mourir. Donc, j'ai essayé, ça a marché, j'ai fait ma formation, j'ai été un acteur. Puis ça a été la même chose pour le chanteur aussi, parce que j'ai résisté longtemps avant d'être capable de me dire à moi-même que j'étais un chanteur. Parce que quand je suis sorti de l'école de théâtre, les gens me demandaient « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Je disais toujours « je suis un acteur qui chante. » Et ça a été très, très long avant que je sois capable de dire « je suis un chanteur qui a une formation d'acteur. »
Un long processus.
Oui, c'est un long processus. J'avais beaucoup de résistance à ce sujet-là, mais aujourd'hui, je ne l'ai plus. Et c'est sûr que d'avoir fait une école de théâtre, d'avoir été un acteur, d'avoir été sur scène, ça a été pour moi une très, très grosse thérapie. Surtout les 4 années à l'école de théâtre qui m'ont permis de sortir de ma bulle, de m'extérioriser et de prendre confiance en moi.
Ce que vous ne pouviez pas faire quand vous étiez jeune, d'autant que, bon, vous disiez être timide, vous étiez un premier de classe.
Oui.
Vous auriez pu être victime d'intimidation, par exemple, parce que vous étiez le cas parfait pour être intimidé, timide, premier de classe. Donc, celui qui fait partie de ce qu'on peut appeler le gang.
Non, c'est ça. Puis j'étais petit, j'étais maigrichon, j'étais pas bon dans le sport, je portais des lunettes.
Mais c'est le théâtre qui vous a sauvé, parce que vous en avez fait dès votre jeune âge.
Bien, au secondaire, il fallait choisir des activités en parascolaire. On avait le choix de faire du sport, faire du macramé ou faire du théâtre. Donc le sport, j'étais pas bon, ça me tentait pas. Le macramé, bon, c'était plus pour les filles, puis, mais j'en ai fait quand même parce que j'ai pas eu le choix à un moment donné. Mais c'était le théâtre. Je me disais, ben si je fais du théâtre, ça va me permettre aussi de rencontrer du monde, de faire des amis, puis tout ça. Et comme j'étais quand même assez bon, ça m'a permis d'obtenir un certain respect de gens au secondaire qui normalement ne m'auraient pas parlé et qui venaient me parler parce que là, si on faisait une petite pièce de théâtre, ils disaient, je peux-tu me mettre avec toi parce que t'es bon?
Vous aviez une notoriété.
Oui, pas une très grande notoriété, mais j'avais quand même, ça m'a évité de certains problèmes, je pense.
Oui. Et au plan du développement de la carrière à cette époque-là, au secondaire, vous pensiez quand même pas faire carrière comme acteur? Vous êtes allé au cégep dans un domaine complètement différent.
Oui, bien en fait, j'en rêvais.
Vous en rêviez.
Parce que j'ai commencé ma première expérience sur scène, j'avais 9-10 ans à peu près, au camping avec mes parents. J'avais fait partie d'une pièce de théâtre et j'avais aimé ça. Puis j'y pensais, puis j'avais fait du théâtre au secondaire. Je rêvais un petit peu à ça, mais comme j'avais pas confiance en moi, je me disais que c'était pas possible. Et... Et donc, j'ai oublié la question.
Mais vous avez fait un développement au plan des études qui n'était pas associé au chant.
Non, c'est ça. Quand je suis sorti du secondaire, j'ai premièrement décidé d'aller au cégep en lettres. Puis je m'étais dit, je vais peut-être devenir traducteur. C'est ça que je voulais faire. J'aimais l'anglais. J'étais habile en anglais. Mais au bout d'une session à peu près, j'ai tout lâché. Puis j'ai fait comme, OK, non, c'est là que j'ai décidé d'aller en théâtre. Puis j'ai fait 2 années au Conservatoire La Salle, qui est une école qui avait un programme en sciences de la parole, donc théâtre, communication. C'était comme un peu préparatoire avant d'entrer dans une école de théâtre officielle, l'École nationale.
Alors, vous avez suivi votre cœur.
Oui, voilà.
On parlait de Michel Legrand. On va l'entendre, Michel Legrand, dans une chanson qui est un peu drôle, qui est très jazzée aussi.
Ouais, ouais.
Elle a, elle a pas.
Vois cette démarche qu'elle a, ce beau sourire qu'elle a, vois cette grâce qu'elle a, avec ce charme-là, avec les jambes qu'elle a, avec les lèvres qu'elle a, avec ses poses, avec son teint de rose, on pourrait faire un opéra.
Ouais, mais avec ce qu'elle n'a pas, on ferait 20 opéras, sans bobine de cinéma, ce que t'es bête.
Vois cette élégance qu'elle a, cette prestance qu'elle a, la jolie robe qu'elle a, avec ce charme-là, avec la classe qu'elle a, avec l'allure qu'elle a, son air de vivre, on pourrait faire un livre digne d'Alexandre Dumas.
Ouais, mais avec ce qu'elle n'a pas, on ferait toute une librairie, un catalogue tous les mois, ce que t'es bête.
Qu'est-ce que tu veux? Je suis sentimental et je ne veux pour rien au monde lui résister plus longtemps. Je sais ce qu'elle n'a pas, mais je suis tellement fou de ce qu'elle a et que tant d'autres n'ont pas. Vois le compte en banque qu'elle a, les jolis gestes qu'elle a, vois les fourrures qu'elle a, avec ce charme-là, avec le vernis qu'elle a, avec la voiture qu'elle a, avec ses diables, sa maison de campagne, on oublie tout ce qu'elle n'a pas.
Ça, c'était la voix de Michel Legrand.
Oui.
Et avec nous, Patrick Olafsson, qui a fait un album consacré à Michel Legrand. On revient au volet études. La notion de chanteur vous a habité constamment, même quand vous étiez par la suite allé faire une formation en théâtre. C'est revenu pendant la trentaine, pendant la quarantaine. Vous n'aviez pas encore l'assurance que vous deviendriez un véritable chanteur.
Non, c'est arrivé plus tard. J'ai fait ma formation, j'ai fini à l'École nationale en 93. En fait, c'est plus vers... en 98, j'ai fait la rencontre d'un gars qui s'appelle Louis Saint-André, qui était un metteur en scène, coach, directeur, qui travaillait beaucoup avec des chanteurs de la relève et qui m'avait vu en spectacle et qui avait... trippé sur moi, puis il m'avait dit « Faut vraiment que tu fasses quelque chose avec ta voix, que tu fasses un album, que tu deviennes chanteur. » Il m'avait vu dans un spectacle de comédie musicale. Puis je résistais beaucoup, puis c'est lui qui avait réussi à me convaincre de m'inscrire au Festival de la chanson de Granby. Donc ça a été là que j'ai commencé à faire le switch, on veut, vers le chanteur, mais toujours en continuant d'être acteur.
Puis au niveau de la comédie, quand on est acteur, c'est pas nécessairement évident de trouver du travail.
Ben non, pas toujours. Tu sais, il y a beaucoup de gangs hein, dans ce métier-là, autant en théâtre qu'en télé, puis tout ça. Puis ça n'a jamais vraiment levé tant que ça ma carrière d'acteur.
Fait que, qu'est-ce que vous avez fait pour gagner votre vie entre-temps? Vous avez fait 56 métiers?
J'ai fait 56 métiers. Dans ce métier-là, il faut se diversifier le plus possible hein, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Même encore aujourd'hui, l'année prochaine, je ne sais pas si tout pourrait tomber. Donc, oui,
mais ça ne tombera pas, ça, je vous le garantis.
Non, mais... oui, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai fait des publicités, j'ai fait du doublage, de la surimpression vocale.
Vous avez même été réceptionniste dans un bureau.
J'ai été réceptionniste dans un bureau et depuis à peu près 18-19 ans, je travaille pour une compagnie qui organise des événements corporatifs. Donc, quand j'ai des petits trous, même encore aujourd'hui, quand ça m'arrive, j'ai des petits trous dans l'année. Des fois, ils m'appellent, ils me disent hey, « t'es-tu libre ces dates-là? On aura un événement, ça te tente-tu de travailler? » Donc, je fais un peu de coordination d'événements puis tout ça.
Vous fermez la porte à rien, finalement.
Ben non, on ne peut pas fermer la porte à rien parce qu'on veut bien gagner notre vie.
Faut saisir toutes les opportunités.
Alors, je suis rendu 49 ans, là, j'ai envie quand même, tu sais, j'ai ma maison à payer, j'ai ma voiture,
oui.
Tu sais, on a les comptes à payer, donc, mais tu sais, en ce moment, avec Tocadéo, ça va super bien, puis ça, je suis super content, puis le plus gros de mon revenu me vient de Tocadéo, donc c'est super. Là.
Alors, présentez-nous votre prochain choix.
Ben oui, en fait, c'est une chanson qui s'appelle « Un rendez-vous dans les réels ». C'est un projet. Je vous ai parlé d'un gars qui s'appelait Louis Saint-André. Ce gars-là, quand il m'a rencontré, avait un projet de monter un spectacle avec 6 artistes de la relève pour les mettre en valeur, des auteurs, des compositeurs, des interprètes. Et il m'avait fait découvrir sur un DVD une chanson qui était interprétée par une chanteuse qui s'appelait Uté Lemper qui faisait un hommage à Édith Piaf. Et dans ce DVD-là, elle faisait la rencontre de Georges Moustaki qui avait écrit une chanson pour Édith Piaf que Uté Lemper n'avait jamais... que Édith Piaf n'avait jamais chanté parce qu'elle était morte. Et il présentait cette chanson-là à Uté Lemper et on les voyait dans le salon autour du piano en train de chanter la chanson. Et j'ai vraiment eu un coup de foudre pour cette chanson-là. Et c'est une longue histoire un peu, mais elle est vraiment super intéressante. On a décidé avec Louis d'enregistrer la chanson et d'en faire une petite cassette. Puis on s'était dit un jour, on l'enverra à Georges Moustaki. Et à peu près en même temps, Georges Moustaki est venu faire une tournée ici au Québec. Et on s'est dit, ben voilà notre chance. Alors on a acheté des billets pour aller le voir à Joliette. Puis on s'est dit, après le spectacle, on va essayer de le rencontrer puis de lui donner la cassette. C'était des cassettes dans ce temps-là.
Vous avez pu le faire?
Oui, on a réussi à courir après sa voiture à l'extérieur du théâtre après le spectacle. Puis ouvrant sa fenêtre, on lui a donné la cassette en disant, écoutez ça, on aimerait ça enregistrer la chanson, est-ce que c'est possible? Puis tout ça. Puis il nous a dit, ben écoutez, je vais l'écouter dans la voiture. Puis je vous donnerai des nouvelles. Et le lendemain, il nous rappelait pour nous dire,
vraiment?
Écoutez, c'est super beau. Patrick a fait une super belle version. Oui, s'il veut la chanson, je lui donne. Il n'y a jamais aucun autre artiste qui l'a en disqué. Uté Lemper l'avait chanté en spectacle, mais il ne l'avait pas en disqué. Donc, s'il la veut, il peut la faire. Et c'est devenu la chanson-titre du spectacle qu'on a fait avec Louis, avec les auteurs-compositeurs. Et ça s'appelle « Un rendez-vous dans les réels ».
Un rendez-vous dans l'irréel est une échappée vers le ciel. Dans des draps de brume en satin, sertis de rosée du matin. Un nuage pour oreiller les toits de la ville à nos pieds, un arc-en-ciel pour baldaquin, ton cœur, mon cœur, qui ne font qu'un. Une étoile à notre chevet, les plus beaux rêves pour rêver. naîtra dans tes cheveux. La rose d'Eva dans tes yeux, le ciel étendra sa clarté en provision des jours d'été. L'hiver sera morte saison, plus jamais nous n'en parlerons. À chaque beau jour désormais, on s'aimera comme on s'aimait. Ils se sont enfuis dans le ciel pour vivre un amour éternel sans rien dire de leur projet, comme s'ils allaient voyager.
Rendez-vous dans l'irréel, Patrick Olafsson, avec toute l'histoire qui entoure tout cela. J'imagine que ça fait partie des joyaux de votre trésor que d'avoir pu la faire entendre à Moustaki avant qu'il décède.
Ah oui, absolument. J'ai eu le plaisir de le rencontrer après ça. Il est revenu faire une autre tournée au Québec. Je l'ai rencontré. On a jasé, il m'a parlé de la chanson un petit peu. Puis oui, absolument, c'est sûr que c'est une petite fierté que j'ai de me dire que ben dans ma vie, j'ai endisqué une chanson inédite de Georges Moustaki parce qu'il a aimé ma voix. Puis ça a été un artiste que j'ai aimé, dont j'aime encore les chansons.
Hein. Ça fait partie des rencontres qui ne sont pas nécessairement prévisibles, qui arrivent comme ça dans la vie et qui parfois vont nous donner l'élan essentiel pour poursuivre.
Oui, absolument. C'est sûr que ça donne confiance. Hein. Ça donne confiance en soi de se dire, bien, si un gars comme Georges Moustaki, qui a tellement d'expérience et qui en a vu d'autres dans sa vie, considère que j'ai bien chanté sa chanson, bien... C'est sûr que c'est une belle fierté. Ouais.
Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres comme cela qui ont parfois marqué votre parcours? Il y en a sûrement plusieurs.
J'ai rencontré Michel Legrand.
Vraiment?
Oui, mais ça a été tellement désastreux comme rencontre. Il est venu il y a quelques années à l'Université de Montréal parce qu'on lui remettait un honoris causa. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, il faut absolument que j'aille à cette cérémonie-là. Et j'avais enregistré l'album et je me suis dit, je vais amener une copie de l'album, puis je vais essayer de le voir puis de lui donner. Et il y a eu toute la cérémonie, il y a eu un concert aussi, puis tout ça. Et après le concert, il y avait un petit 5 à 7, donc un petit cocktail. Et bon, je n'étais pas invité, mais j'ai réussi à m'immiscer dans le cocktail. Et il y avait plein de monde. Il y avait Michel Legrand qui était là. Et j'étais super intimidé d'aller le voir puis d'aller le rencontrer. Et à un moment donné, il parlait avec des gens. Puis tout ça, puis à un moment donné, il y a eu un moment où je me suis dit, OK, c'est là, vas-y. Je suis arrivé devant lui. Je lui ai serré la main. Je lui ai dit, bonjour, Monsieur Legrand. J'aime beaucoup ce que vous faites. Puis tout ça. Puis au moment où j'étais en train de commencer à lui parler de mon album, il y a quelqu'un qui est arrivé. Puis il a fait, hey, Michel, viens ici. J'ai quelqu'un à présenter. Puis ils sont partis. Et je me suis retrouvé. Et il ne s'est rien passé. Et finalement, j'étais vraiment déçu et je me suis mis sur le côté. Puis à un moment donné, il y a une dame qui est venue me voir et qui me dit, je lui ai raconté l'histoire rapidement, puis elle m'a dit, non, il faut que tu retournes le voir. Puis elle est venue avec moi, puis elle m'a vraiment poussé, puis elle m'a dit, elle m'a présenté à Michel Legrand, puis j'ai réussi à lui donner une copie de l'album, mais j'ai jamais eu de nouvelles, il m'a jamais rappelé. Peut-être qu'il n'a pas aimé ou peut-être qu'il ne l'a pas écouté, je ne sais pas.
On ne saura jamais.
Non.
Écoutez, c'est tout le temps dont on dispose cette semaine, mais vous allez nous revenir la semaine prochaine.
Oui, certainement.
Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Pierre de Gagné, Armand Dubois à l'animation réalisation. Et on va se quitter sur une autre chanson de Michel Legrand que vous interprétez fort bien. Quand on s'aime, quant à nous, on se revoit la semaine prochaine.
Certainement.
On peut marcher sous la pluie, prendre le thé à minuit, pas passer l'été à Paris quand on s'aime. On peut se croire à New York, 5h du soir, 5 o'clock, ou dans un square de Bangkok quand on s'aime. On peut marcher sur la mer, danser autour de la terre, se balancer dans les airs. On peut tout faire quand on s'aime. Écoute, écoute le temps, moi je le trouve hésitant, puisqu'il varie tout le temps entre beau fixe et printemps. On peut voler de soleil en soleil, nuit et jour, quand on s'aime. Oui, quand on s'aime, on peut marcher à New York, prendre le thé 5 o'clock, passer l'été à Bangkok quand on s'aime.